Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction de RTL, toujours avec Olivier Mazerolles, bonsoir.
Bonsoir.
Rude semaine pour l'exécutif, cacophonie sur la réforme des retraites, coup de chaud entre le Sénat et l'Élysée, mais surtout après le saccage des Champs-Élysées, cette question, Christophe Castaner est-il à la hauteur? Hier, les Black Blocs ont eu la bonne idée de rester chez eux, ce qui permet au ministre de l'Intérieur de souffler un peu, mais pour combien de temps? On verra cela avec Dominique Tenza. L'invité du grand jury aujourd'hui, c'était Raphaël Glucksmann, plus connu des intellectuels que des Français en général. C'est lui qui conduira la liste de Place Publique et du Parti Socialiste aux élections européennes. On le réécoutera et comme d'habitude, on débriefera sa prestation. Et puis à 9 semaines de ce scrutin européen, on s'arrêtera sur la stratégie de campagne de Marine Le Pen. Depuis 2 mois, avec la tête de liste Jordan Bardella, elle ratisse le terrain en faisant ses meetings dans de tout petits villages. Marie-Bénédicte Allaire vous dira pourquoi. Le MacPol, c'est parti, jusqu'à 19h.
Le MacPol.
La semaine d'Olivier Mazerolles sur RTL.
Olivier, la semaine qui s'annonce cruciale pour l'Europe, pour au moins 2 raisons. D'abord, évidemment, le Brexit. On va savoir si les Britanniques vont se décider ou pas. Mais aussi parce que les dirigeants européens reçoivent l'un des hommes les plus puissants du monde, le président chinois Xi Jinping. Il était hier en Italie. Il dîne ce soir avec Emmanuel Macron. Il va discuter également mardi avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Et dans le contexte du moment, Olivier, bien cette visite est de la plus haute importance.
Oui, la Chine est un grand sujet de préoccupation pour l'Europe. En 2017, son déficit commercial avec la Chine approchait les 200 milliards d'euros. Les entreprises chinoises peuvent accéder à la presque totalité des marchés publics en Europe, contre seulement 2% des marchés publics chinois accessibles pour les entreprises européennes. Plus grave encore, sous l'appellation des nouvelles routes de la soie, les Chinois mènent une offensive de conquête à la fois commerciale, financière et géostratégique pour planter le drapeau rouge de Pékin partout où ils le peuvent. Ils investissent dans tous les moyens de communication, routes, chemins de fer, ports, aéroports, dans les technologies du futur. Ils rachètent de grandes entreprises. Jusqu'à une date récente, l'Europe était épargnée par ce déferlement. Ce n'est plus le cas. Pas plus tard qu'hier, Xi Jinping a signé 29 accords avec l'Italie, englobant les ports de Trieste et de Gênes. L'objectif est d'en faire les têtes de pont du trafic commercial de l'Europe avec l'Asie, au détriment de Marseille et des ports d'Europe du Nord.
Vous citez le cas de l'Italie qui fait bande à part parce qu'elle a besoin d'argent. Dans ces conditions, les Européens ont-ils les moyens de faire face à l'offensive chinoise?
L'exemple italien n'est pas très encourageant, d'autant plus que les Chinois courtisent également tous les anciens pays du bloc soviétique, Hongrie, Pologne, pays baltes, aujourd'hui membres de l'Union Européenne. Mais rien n'est joué. À Bruxelles, avant-hier, les Européens ont adopté un cahier des charges qui exige un rééquilibrage commercial, un meilleur accès au marché chinois et un contrôle des investissements chinois en Europe, notamment dans les secteurs stratégiques, y compris dans celui de la 5G qui va révolutionner l'utilisation de tous les matériels connectés. Alors, les exigences européennes vont être présentées mardi à Xi Jinping par Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker avant un sommet Chine-Union européenne qui aura lieu le 9 avril prochain.
Et vous pensez que le président chinois peut fléchir?
C'est l'enjeu. D'un côté, il est contraint de trouver des partenaires fiables pour compenser la fermeture partielle du marché américain, mais il croit aussi que les Européens sont divisés et affaiblis et par conséquent vulnérables. L'issue de cette partie de bras de fer repose donc essentiellement sur la capacité de l'Europe à faire bloc.
Olivier Mazerolles.
Toutes les manifestations déclarées, à Paris comme en région, ont pu se dérouler globalement dans le calme. Un dispositif adapté avait été mis en place. Je retiens que nos consignes de fermeté ont été respectées et qu'elles ont permis de maintenir l'ordre et d'éviter les débordements.
Vous l'avez reconnu, le ministre de l'Intérieur, soulagé, on le comprend. Christophe Castaner avait beau jeu hier soir de souligner l'efficacité du nouveau dispositif, même si au fond de lui, il sait pertinemment que la vraie raison du calme face aux gilets jaunes hier était ailleurs. C'est sans doute parce qu'il n'y avait pas de Black Bloc. Bonsoir Dominique Tenza.
Bonsoir.
On verra de quoi son avenir sera fait. Ce qui est sûr, c'est que Christophe Castaner vient de traverser la séquence la plus compliquée de sa carrière politique et les ennuis ont commencé avant même les Champs-Élysées.
Oui, la veille de ce samedi noir, lorsqu'une vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux par la presse People. On y voit Christophe Castaner en train de danser dans un bar clairement désinhibé, enlaçant une jeune femme qui n'est pas la sienne, une escapade nocturne qui aurait pu rester anecdotique, mais qui avec le recul et les événements du lendemain est pour l'image du ministre catastrophique. Samedi 16 mars, journée noire. Des milliers de casseurs sèment le chaos sur les Champs-Élysées. Que font les autorités? Où est le ministre? Rapidement, la polémique enfle et c'est Édouard Philippe qui va tenter, sans mauvais jeu de mots, d'éteindre l'incendie.
C'est inacceptable. Je suis venu donner des consignes de très grande fermeté.
Je suis venu donner des consignes. Derrière le Premier ministre, Christophe Castaner n'emmène pas large. Il sait qu'on ne lui pardonnera pas ce samedi chaotique et qu'il joue potentiellement sa tête.
Ce qu'on comprend, Dominique, c'est que finalement, c'est Matignon qui va jouer les pompiers de service. Face à quoi? Face à l'impuissance de son ministre.
Oui, même si à Matignon, on préfère mettre en avant l'ordre naturel des choses. C'est dur pour Christophe, il faut qu'il s'accroche, on est là pour le soutenir. Mais plus qu'un soutien, on a eu l'impression toute la semaine d'assister plutôt à une forme de mise sous tutelle. Lundi après-midi, c'est Édouard Philippe, encore lui, qui présente le nouveau plan de bataille de l'exécutif.
Nous allons d'abord renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre.
Vous comprendrez.
Le lendemain, à l'Assemblée, lorsque l'opposition attaque...
Que les Français soient atterrés, partant de légèreté, d'insouciance et d'incompétence.
C'est une fois de plus Édouard Philippe qui répond.
C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé un plan qui permettra d'interdire ces manifestations.
Et lorsque Christophe Castaner se lève à son
Mesdames,
tour,
messieurs les députés.
L'ambiance tourne au lynchage. Incompétents, amateurs, démission, hurlent les députés.
Bon, la semaine se passe, Dominique, et finalement Christophe Castaner parvient, j'ouvre les guillemets, à sauver sa peau au prix de celle des autres.
Ah oui, parce que dans cette histoire, la victime s'appelle Michel Delpech, préfet de police de Paris. Il n'aurait pas respecté les ordres et son limogeage permet au ministre de se maintenir en poste. Pas sûr néanmoins que son crédit auprès des forces de sécurité en sorte grandi. En privé, la plupart des syndicats de police reprochent à Christophe Castaner de ne pas avoir lui-même assumé sa part du fiasco.
Il aura en tout cas perdu des plumes dans cette séquence. Est-ce qu'au sein du gouvernement, on considère que Christophe Castaner est grillé?
Disons qu'il a montré ses carences, ses faiblesses sont apparues au grand jour. C'est la crise qui fait le ministre, veut croire un conseiller qui le connaît bien, vous verrez, il en sortira plus fort. À une condition, il lui faut maintenant des résultats. Et le véritable test, ce n'était pas ce week-end, on attend une grosse mobilisation dans un mois, le 20 avril, et surtout le 1er mai. D'ici là, disons que le ministre est en sursis.
Dominique Tenza, merci. Un commentaire, Olivier?
C'est vrai que la situation est compliquée pour Christophe Castaner, parce qu'il est vrai que l'autre samedi, la police n'était pas au rendez-vous. Elle l'a été donc ce samedi, mais plus globalement, je dirais que de toute manière, c'est le gouvernement tout entier qui est en difficulté parce qu'il lui faut trouver la réponse à la crise politique et sociale. Et c'est de cette réponse que dépendra la fin ou pas des manifestations.
Il est 18h42, on va marquer une première pause dans ce MacPol et on va accueillir quelqu'un dont c'était la première grande émission politique. Dans un instant, retour sur le grand jury de Raphaël Glucksmann, c'est lui qui va conduire aux européennes la liste de Place Publique et du Parti Socialiste.
RTL dimanche soir,
le MacPol avec Philippe Robuchon.
L'invité du grand jury aujourd'hui sur RTL était donc Raphaël Glucksmann, essayiste et désormais homme politique, puisque c'est lui qui va conduire la liste du mouvement Place Publique et du Parti Socialiste aux européennes. 39 ans, fils de philosophe, Raphaël Glucksmann est peu connu du grand public. Ce grand jury était donc l'occasion de mieux cerner à la fois le personnage et ses ambitions. Raphaël Glucksmann est un Européen convaincu. Dans le dernier baromètre Harris dont on a parlé à 18h, il progresse de 2 points à 7% d'opinion favorable. Il n'a pas réussi pour autant à faire alliance avec les écolos de Yannick Jadot ou les amis de Benoît Hamon. Alors on va réécouter Raphaël Glucksmann, sa prestation, et comme d'habitude, on débriefe juste après.
L'Europe, c'est l'histoire de ma vie, c'est la cause de ma vie. Moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans remodeler, refonder la légitimité de l'Union européenne. Je pense que l'Europe, c'est la solution à nos problèmes, justement. Et donc, c'est là-dessus que moi, je veux me battre. Pour une Europe qui ne démantèle pas les services publics, mais qui les préserve. Moi, je veux me battre pour une Europe qui est capable de protéger ses frontières contre les biens importés de pays qui ne respectent aucune norme sociale ou environnementale. Moi, je veux me battre pour un protectionnisme vert. Moi, je veux me battre pour que l'Europe, elle réponde aux problèmes des gens. Et la seule élection qui m'obsède, c'est les élections européennes, parce que c'est le combat de ma vie. J'aurais jamais été candidat à une élection autre qu'à l'élection européenne.
Oui, mais Jadot tient le même discours que vous pour la liste écologique, Benoît Hamon pour l'autre liste.
C'est pour ça qu'ils
ne vous mettez pas ensemble.
Ben, bien sûr qu'il faut.
Mais pourquoi vous rangez pas derrière eux?
Elle est ouverte.
Mais votre liste, mais la leur aussi. Pourquoi vous dites pas,
mais non, mais
aujourd'hui, écoutez, à Yannick Jadot, tu ne nous as pas rejoint, là, eh bien nous sommes prêts à te rejoindre. Est-ce que ça, c'est envisageable ou pas? Puisque vous partagez, j'ai regardé aujourd'hui, il y a des propositions.
Énormément de choses. Et je peux vous dire...
90% de votre programme.
J'avais pas d'amis dans la scène politique particulière, sauf un, Yannick Jadot. Donc je vais pas mentir. C'est d'ailleurs celui avec lequel je me suis le plus engueulé depuis.
Et en plus, vous n'avez pas d'ambition présidentielle, donc vous pouvez être derrière sur la liste.
Enfin, moi, je lui ai proposé à Yannick Jadot, il y a un mois, justement, qu'il y ait un rassemblement, mais pas qu'il vienne derrière nous, qu'il y ait un rassemblement, et que ce rassemblement, il se fasse avec lui et sur le logiciel porté par les Verts.
Mais est-ce que vous lui proposez aujourd'hui de le rejoindre à nouveau?
Aujourd'hui, elle est ouverte. Maintenant, on a lancé une dynamique et il y a une divergence stratégique. Je vais vous dire, soyons honnêtes, il y a une divergence stratégique. Yannick Jadot, il pense d'abord aux Verts. Aux Verts à Paris, au groupe Vert. Et moi, je crois que l'avenir, c'est le mariage de l'écologie politique et de la social-démocratie. Et c'est le dépassement de la social-démocratie dans une social-écologie. On ne peut pas faire simplement avec les Verts. Il va falloir qu'on fasse une force qui soit beaucoup plus large que ça et qui inclut tout l'héritage de la social-démocratie. Aujourd'hui, tous, presque tous en tout cas, se réjouissent de la crise de la social-démocratie.
Mais c'est-à-dire que Yannick Jadot n'est pas suffisamment de gauche? C'est ça que je ne vous suis pas. En quoi il est
différent? Je ne suis pas en train de dire... Je ne suis pas un videur de boîte de nuit qui regarde les chaussures et qui dit « Toi, tu es assez à gauche, toi, tu es à gauche. » Je suis sûr que je ne suis pas assez à gauche pour beaucoup de gens. Et à gauche, il y a toujours un truc un peu dingue qui est de dire t'es pas assez à gauche pour moi. Le problème, c'est est-ce qu'on est sur une logique où aujourd'hui, vu la faiblesse réciproque, enfin, je veux dire, vous dites qu'on monte dans les sondages, c'est très bien, mais on est encore à 7%, ce qui est pas assez.
À égalité avec Yannick Jadot, en effet, voilà, c'est pas.
Vu la faiblesse réciproque, est-ce qu'on utilise ces élections pour se compter chacun dans son coin, se compter, ou alors est-ce qu'on décide que ces élections valent la peine de proposer enfin une alternative au match entre Macron et Le Pen? Je pense que c'est terrible.
Le Mac Paul, Philippe Robuchon.
Benjamin Sportouche, RTL, Guillaume Roquette, Le Figaro, Christophe Jacubizine, TF1, LCI, messieurs, c'est vous qui avez animé ce grand jury de Raphaël Glucksmann. Alors, il est à 7%, on l'a dit tout à l'heure dans le journal, dans le dernier baromètre Harris. Il progresse dans les sondages. Est-ce que c'est justifié compte tenu de sa prestation au grand jury? Qu'en avez-vous pensé?
Alors déjà, je pense qu'en politique, décidément, il y a un effet nouveauté. On l'a vu pour les élections présidentielles, je pense que c'est un phénomène qu'on voit dans toutes les démocraties occidentales. C'est la génération Kleenex, hein, c'est-à-dire que soit tu gagnes, soit tu perds, mais si tu gagnes, c'est pour une fois, et si tu perds, c'est fini.
Mais Emmanuel Macron a connu ça.
Ouais. Alors voilà, on verra la suite en 2022. En tout cas, non, Glucksmann, il y a l'effet nouveauté. Et puis, effectivement, au grand jury, objectivement, c'est une bonne prestation. C'est-à-dire qu'il est cohérent dans sa démarche, c'est-à-dire qu'il veut ressusciter une social-démocratie de manière à sortir du face-à-face entre les souverainistes nationalistes d'un côté et puis Macron de l'autre, qui a rassemblé la droite modérée et la gauche modérée. Et du coup, il veut ressusciter le clivage droite-gauche, mais en disant que c'est nécessaire parce que sinon, l'alternative politique aujourd'hui, c'est les extrémistes. Mmh. Et donc, ça, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt logique. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de travail et de chemin à parcourir. Ouais.
Je trouvais que la personnalité était assez convaincante. On n'avait pas l'impression qu'il était novice en politique, il était assez à l'aise. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec ce renouvellement dont parlait Christophe à l'instant, c'est qu'il n'y a pas d'erreur de casting. Un bel ami, même la tête de liste du Rassemblement National, ils sont pas mauvais, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, sur le fond, moi j'ai toujours du mal à comprendre en quoi il a une offre politique tellement spécifique qu'il ne peut pas se mettre avec Yannick Jadot et avec Benoît Hamon. Alors, il est un peu répondu en disant c'est parce que Jadot pense qu'à l'écologie. En fait, c'est parce que Jadot veut être le candidat des Verts pour les prochaines présidentielles. Mais je pense que tout ça est un petit peu compliqué et c'est un petit peu la limite de l'exercice. On comprend bien le fait que c'est une espèce de bouée de sauvetage pour le Parti Socialiste. Après, j'ai du mal, moi, à le voir s'installer dans le paysage, sur le plan des idées et des propositions.
Benjamin.
Exactement. Une bouée de sauvetage, moi je reprendrai cette expression, plutôt qu'un vrai capitaine, parce que en quoi il n'a pas réussi à nous expliquer en quoi lui serait meilleur que les autres. Moi, c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait un écueil important pour lui, parce qu'il nous dit qu'il a beaucoup changé, par exemple. Alors, c'est louable de dire que vous avez beaucoup changé. Oui. C'était un libéral, c'est plus un libéral. L'impératif écologiste, il est venu, mais assez tardivement, d'après ce qu'on en comprend. En tous les cas, n'a pas été ses combats premiers. Donc c'est une démarche pragmatique qui se construit cas à cas, mais je ne vois pas
en quoi lui, plutôt qu'un autre, hein, pourrait relever le défi de cette nouvelle gauche. Il y croit, mais il y croit en même temps avec beaucoup d'hésitation. Parfois, on a l'impression que lui-même, il se dit que la tâche est peut-être, ou le costume, un peu grand pour lui.
Oui, Christophe.
Pour filer la métaphore de la bouée de sauvetage, l'excellent Guillaume Roquette,
je dirais que
ce qui est intéressant, c'est que l'écologie est une bouée de sauvetage du socialisme. C'est qu'au fond, que pour que la gauche ressuscite, on le voit dans toute l'Europe, effectivement, si elle s'allie à l'écologie et si elle présente un programme économique de développement durable, un programme économique de survie de la planète, ça peut fonctionner. Et c'est pour la social-démocratie une manière de revenir sur la scène politique. Et c'est ça que lui a compris.
Et dans ces cas-là, il faudrait qu'il fasse une liste commune avec les écologistes. Oui, mais... Et pour des raisons tactiques, c'est pas possible. Et c'est toute la limite de la proposition.
Parce que c'est vrai qu'à deux, il ferait 15%, hein, Jadot et Glucksmann.
14 plus les 2% dans notre sondage de Hamon, ça fait 16%. Après, ce qu'il oublie aussi, et c'est peut-être aussi là sa faille, parce qu'il ne veut pas être un politique et il ramène tout aux enjeux européens. Mais il y a des choses qui vont venir de soi, comme l'identité. Mmh. Et là, on sent qu'il ne veut pas venir sur ce terrain-là, parce que ce n'est pas du domaine de l'élection européenne. Et là, je pense qu'il y a un souci, parce que les gens, ça les intéresse de savoir ce que pense un candidat sur tous les sujets. C'est difficile pour quelqu'un de faire le tri. On veut savoir ce qu'il a dans ses tripes. Et en effet, lui-même parle des racines chrétiennes de l'Europe. Il amène ce sujet-là, donc il a aussi son avis sur l'identité.
Et pour terminer, je vais vous poser une question cash. D'ailleurs, vous l'avez titillé là-dessus lors du grand jury. Son côté bobo parisien en plein contexte gilet jaune. Est-ce que ça n'est pas rédhibitoire?
Si, parce que comme on l'a dit, il représente, objectivement, c'est pas lui faire injure de dire ça, il représente la gauche caviar, pas la gauche gilet jaune. Et le problème de la gauche en France, comme dans beaucoup de pays européens, c'est de ne plus parler au peuple qui souffre et au peuple qui réclame plus de justice. C'est pas la gauche qui rapporte des réponses. Aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt les partis extrêmes qui apportent cette réponse aux classes dites populaires.
Cette gauche-là, social-démocrate, elle était déjà perdue avant pour les gilets jaunes. C'est pas la faute, objectivement, de Glucksmann.
Eh bien, on va en rester là. Merci Guillaume Roquette, Le Figaro, merci. Christophe Jacubizine, TF1 LCI. Merci Benjamin Sportouche,
merci.
RTL. Olivier, vous a séduit Raphaël Glucksmann au grand jury?
Écoutez, je vais vous dire qu'on entend tellement d'inepties en ce moment de part et d'autre que c'est quand même rafraîchissant et agréable d'entendre à droite un François-Xavier Bellamy et aujourd'hui donc à gauche un Raphaël Glucksmann énoncer des convictions paisiblement, sans agressivité, sereinement, et dire des choses intelligentes. Après, on les partage ou on ne les partage pas, mais au moins, on est dans un débat qui est intéressant. Ensuite, c'est vrai qu'il apparaît un peu débutant en politique, non pas sur les convictions, mais sur la manière de faire de la politique. Mais après tout, il a peut-être une petite chance quand même de percer un peu plus, tout simplement parce que si le Parti Socialiste est dans les choux, en revanche, l'idée dans une grande partie de l'électorat de gauche qu'il est nécessaire qu'il y ait un parti socialiste ou tout au moins qu'il y ait une figuration socialiste qui existe réellement est encore là.
Et le fait qu'il n'ait pas réussi à embarquer avec lui, convaincre Jadot,
oui, mais ça, il faut reconnaître une chose, c'est que dans ces conditions-là, c'est pas lui qui apparaît comme étant le diviseur, mais ce sont ceux qui ne veulent pas venir. Parce que, par exemple, Benoît Hamon, il a raison. Il est à combien, Benoît Hamon, actuellement?
2%.
Bon, voilà. Alors, il dit, je veux pas venir, parce qu'il a été un jour candidat du PS aux élections présidentielles avec résultat
6,6
totalement dérisoire. Donc, celui qui divise, c'est pas Raphaël Glucksmann.
On va s'intéresser à Marine Le Pen à présent. Alors que La République En Marche n'a toujours pas officiellement de tête de liste pour les européennes, ce sera sans doute Nathalie Loiseau, mais ce n'est pas officiel. La présidente du Rassemblement...
Là, il faut du courage pour la désigner après sa prestation face à Marine Le Pen. Elle est sûrement très intelligente et parfaitement compétente dans le domaine européen, mais comme on voit que ce n'est pas la question européenne qui va dominer les débats pour les européennes, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Dans le débat politique, quand on déclare sa candidature et qu'on provoque un éclat de rire chez
Marine Le Pen,
contradictrice, c'est...
Ouais. Bon, alors en attendant que Nathalie Loiseau soit officiellement désignée pour mener la liste de La République En Marche aux européennes, Marine Le Pen, elle, bat la campagne. La campagne dans tous les sens du terme, en effet, depuis 2 mois, accompagnée de la jeune tête de liste Jordan Bardella, eh bien elle ne tient pas de grand meeting dans les Zéniths. Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, de toutes petites communes, effectivement. La Rochette en Savoie, Bessières en Haute-Garonne, Saint-Paul-du-Bois dans le Maine-et-Loire, Dommartin-le-Saint-Père en Haute-Marne ou encore Richemont en Seine-Maritime. Leurs habitants se sentent souvent délaissés par les politiques publiques. Jacqueline et Jean-Paul, deux retraités, en témoignent auprès de Julien Caillard.
Le petit bled, là, on n'a plus d'épicerie, on n'a plus rien. Les médecins en ville, c'est la guerre. Tout vient catastrophique pour tout le monde.
Dès qu'il y a quelque chose à donner, c'est les banlieues, c'est les clandestins, c'est les villes. Nous, à la campagne, on n'a pas tout ça. On n'a rien, on nous laisse. S'il y a une chose qu'on n'oublie jamais, c'est les impôts.
Alors, tous les week-ends ou presque, Marine Le Pen tient une réunion publique dans une petite salle municipale comme ce 9 février à Saint-Ébremont-de-Bonfossé, 700 habitants dans la Manche.
Cette France des oubliés, j'en parle depuis très longtemps, je la défends depuis très longtemps. J'ai plaidé sa cause, en quelque sorte, quand personne ne s'y intéressait. Et elle s'est exprimée aussi au travers de ce mouvement des Gilets jaunes, qui, à un moment donné, est venu dire « nous existons ».
Point commun entre tous ces villages où s'arrête Marine Le Pen, ses scores faramineux à la dernière présidentielle. Plus de 40% au premier tour, 70% au second. Avec Jordan Bardella, sa tête de liste, ils sont en terrain conquis.
Je pense bien évidemment à la France des terroirs, à cette France sincère, méritante et combattante, où les cloches des églises continuent de rythmer les journées. Tenir une réunion publique ici, c'est presque déjà faire acte de résistance à Emmanuel Macron.
Peu ou pas de manifestations d'opposants, Marine Le Pen peut faire des bises et des selfies avec les sympathisants. Deuxième sur la liste aux européennes, Hélène Laporte le soulignait hier à Buzet-sur-Baïse, dans le Lot-et-Garonne, au micro RTL de Denis Grandjoux.
Finalement, on est vraiment proche des gens et puis on peut rencontrer plus de monde. C'est beaucoup plus personnel que des grosses salles où finalement on ne voit personne.
Et Marine Le Pen soigne la presse régionale en lui réservant des rencontres fermées à la presse nationale. C'est tout bénéfice. L'autre avantage, et non des moindres, pour le Rassemblement national, qui n'a toujours pas obtenu d'emprunt pour sa campagne, il est économique. Explication de Bernard Gondran, responsable RN dans l'Ariège.
La location de la salle est beaucoup moins chère, donc on fait des économies. C'est ça la raison. On va dans des villages, en faisant des petits meetings, mais beaucoup plus souvent, ça revient moins cher. Donc on fait des économies.
Quand il fait de grands meetings et que la location des salles coûte cher, en effet, le RN doit faire payer les entrées. Dans ces villages, ce n'est pas le cas. Les sympathisants apprécient d'autant plus qu'on s'arrête chez eux.
Ça répond en effet à une demande de proximité, de ruralité, de gratuité aussi. Donc les salles sont pleines, c'est parfait.
Moi, je pense que c'est pas plus mal. Le tout, c'est que Marine arrive à passer et qu'elle gagne.
Marine Le Pen figure bien sur la liste, mais pas en position éligible. Sa stratégie, en tout cas, semble payante si on en croit les sondages. Demain, Marine Le Pen s'envole pour une semaine à Mayotte et à La Réunion en tout petit comité. Et là encore, pas de meeting, mais des rencontres avec les habitants.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Olivier, il nous reste 30-40 secondes pour parler de l'un des événements de la semaine. On ne sait pas d'ailleurs s'il va avoir lieu. C'est en Angleterre ou en Grande-Bretagne. Theresa May va-t-elle enfin réussir à convaincre les députés britanniques?
Surtout, ce qui serait bien, c'est qu'alors que la démocratie représentative est en crise un peu partout, ce serait bien que les députés britanniques s'y mettent pour offrir un spectacle un peu moins pitoyable que celui qu'ils offrent depuis plusieurs semaines.
Merci Olivier pour ces explications et ces commentaires dans le MacPoll. Dans un instant sur RTL, les titres de 19h avec Alexandre de Saint-Aignan. Juste après, les dessous de l'écran, l'émission média de RTL. On ira à Lille rejoindre Laurence Herzberg, la directrice générale de Sérimania, le festival des séries qui bat son plein depuis vendredi. Et puis dans Autoradio avec Christophe Bourreau, on va revenir sur les annonces spectaculaires du constructeur Volvo qui se fixe à un objectif incroyable. Zéro mort à bord de ses voitures en 2020 avec des vitesses bridées à 180 et des véhicules qui ralentiront tout seuls à proximité des écoles. Vous verrez, c'est passionnant. A tout de suite.
Le MacPoll, RTL dimanche soir.